Alors,
la tête au carré.
À l'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes.
La tête au carré. C'est à la fois la tête dans le carré et puis le carré dans la tête.
La pure connaissance scientifique.
C'est la tête au carré.
On va faire une minute de méthodologie, mais dans un magazine scientifique, ça devrait être autorisé.
Ça va.
La tête au carré.
Tenez-vous bien. 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bonjour à tous, nouvelle semaine scientifique avec Violaine Ballet qui réalise l'émission. Chantal de Montagny a préparé le dossier avec Lucie Sarfati. On s'intéresse aujourd'hui à notre organisme et à sa capacité d'auto-guérison. La médecine actuellement nous offre des médicaments qui aident très efficacement à soigner de nombreuses maladies. Mais dans le même temps, notre système immunitaire ne développe plus ses défenses naturelles afin de minimiser les risques. Et notre invité propose une médecine plus écologique et moins chimique pour mieux combattre les maladies. C'est le sujet aujourd'hui de la tête au carré. C'est sur ce thème que vous pouvez nous rejoindre avec vos messages sur franceinter.com. Patrick Lemoine, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes psychiatre et spécialiste des troubles du sommeil et de la dépression et vous publiez ce livre « La détox, c'est la santé » aux éditions Robert Laffont. Alors vous êtes quand même un drôle de médecin puisque votre credo c'est de prescrire le moins possible. Vous arrivez encore à trouver beaucoup de patients qui viennent vous demander des médicaments ?
Je vais prescrire le moins possible et déprescrire le plus possible. Mm-hmm. Parce que j'ai consacré une bonne partie de ma carrière à enlever les médicaments que les autres mettaient, ce qui est très vilain de ma part, vous en conviendrez.
Donc c'est la surconsommation des oui. médicaments que vous dénoncez ?
Tout à fait, il y a une surconsommation, alors ça fait partie des exceptions culturelles françaises, dont on pourra débattre si vous voulez, mais aussi, vous le savez, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire ce qui fait que le médicament il va agir mieux qu'il ne devrait, mieux que prévu, grâce à la conviction du médecin et donc de son patient. Mmh. Je crois qu'il est dommage de priver la médecine, la thérapeutique, de ce coup de main que peut donner l'organisme qui se forge lui-même ses médicaments naturels.
C'est ça, vous dites hein, qu'effectivement il faut faire confiance à cet organisme qui est capable donc de faire une auto-guérison lui-même. Ça n'est pas vraiment une vision occidentale des choses, ça, a priori.
Alors, oui, c'est vrai. Vous pointez bien mon avant-dernier livre qui était sur la culture et j'étais extrêmement frappé par cette immense différence entre les orientaux et les occidentaux. Pour donner un exemple très simple, si demain vous allez chez votre médecin en disant « Bonjour docteur, c'est génial, je vais super bien, faites quelque chose pour moi. »
Il vous fait interner tout de suite, non ?
Exactement. Alors qu'en Chine, bah, c'est normal. Et puis il va vous examiner très soigneusement et il va vous faire un diagnostic de bonne santé. Il va vous dire de quel type de bonne santé vous êtes affecté et du coup il va vous prescrire ce qu'il faut pour maintenir cette bonne santé. Donc c'est vraiment une clinique de la bonne santé. Ils ont plusieurs centaines de diagnostics de bonne santé, une dizaine de maladies. Nous, on a un diagnostic de bonne santé qui date de 46 et puis des centaines de maladies. Donc c'est vraiment une vision antinomique et il est vrai qu'en Extrême-Orient, il s'agit effectivement de donner un coup de main à l'organisme, aux médicaments, et non pas de faire à sa place.
Alors vous insistez sur les maladies fonctionnelles, donc on rappelle ce que c'est, hein, c'est tout ce qui n'a pas vraiment d'explication physiologique, tout ce qui n'est pas décelable ou visualisable.
Hein. C'est ça, quand on ne trouve pas de lésion, en sachant que parfois on a des surprises. Hein. Pendant longtemps, on a cru que la maladie de Parkinson était une névrose, et puis un jour on s'est quand même aperçu qu'il y avait quelques noyaux dans le cerveau qui étaient détruits. Donc souvent, c'est un diagnostic par défaut, mais clairement, la fatigue chronique, la fibromyalgie,
le rhume,
les maux de tête, le rhume, les lombalgies, toutes ces petites misères, beaucoup d'allergies chroniques sont des maladies fonctionnelles dans laquelle, faut bien le dire, la médecine occidentale n'a pas grand-chose à vendre.
Et donc vous proposez une médecine écolo, donc on y reviendra bien sûr avec vous, et puis vous expliquez que notre cerveau est une véritable pharmacie portable et que notre corps est capable donc de fabriquer en permanence des substances. C'est le sujet de l'émission cet après-midi et vous répondrez au courriel des auditeurs qui arrive sur le site de l'émission sur franceinter.com. Patrick Lemoine, à tout à l'heure. Pardon, Carole Anne Ohar rapporte une étude étonnante publiée dans The Journal of Neuroscience. Afin de mieux comprendre les mécanismes de l'insomnie, des chercheurs américains ont réussi à créer une souris mutante qui mime ce désordre du sommeil. La journaliste explique que les scientifiques ont concentré leurs travaux sur deux gènes qui codent des molécules impliquées dans la propagation du message nerveux, les canaux ioniques. En modifiant génétiquement les canaux sensibles aux ions potassium chez les souris, les chercheurs ont observé une diminution de plus de la moitié du temps temps de sommeil chez les souris mutées. Un électroencéphalogramme a en effet mis en évidence que ces souris étaient incapables d'entrer en sommeil lent ou seulement sur de très courtes périodes. L'équipe souhaite donc se concentrer sur la mutation de l'un de ces canaux qu'elle soupçonne être le premier facteur de perturbation du sommeil. L'article précise qu'il n'existe pour l'instant aucun traitement agissant sur ce canal ionique. Patrick Lemoine, est-ce que vous, en tant que spécialiste du sommeil, cette souris mutante vous intéresse ?
A priori non. A priori non, parce qu'il s'agit là d'insomnie génétique, génétiquement provoquée. Et il semblerait que chez l'homme, l'insomnie génétique familiale, qui est d'ailleurs une maladie mortelle, est rarissime. Je crois qu'il y a trois familles dans le monde qui sont connues. Et donc l'insomnie chez l'homme, c'est quelque chose qui a tellement de causes et tellement de mécanismes différents que celle-ci pourrait représenter peut-être un millième des causes, voire moins.
Mm-hmm. Alors peut-être que donc, c'est un facteur de risque. Est limité, mais est-ce qu'il y a également le problème de la transposition du travail chez la souris sur l'homme ?
C'est possible que génétiquement, on pourrait transférer ce qu'on a trouvé chez l'homme qui est génétiquement insomniaque par rapport à la souris génétiquement insomniaque. Mais, ou alors, il faudrait imaginer qu'il y a un facteur de vulnérabilité à l'insomnie qui était mis en évidence. Mais disons qu'a priori, pour le moment, ce n'est pas intéressant chez l'homme. A priori.
On vous retrouve dans un instant avec...
La tête.
Oui, alors si vous me demandez d'expliquer à l'antenne la conjecture de Poincaré, je ne le ferai pas.
Mais ça va pas, la tête.
Sur France Inter.
La détox, c'est la santé. C'est le titre du livre de notre invité Patrick Lemoine, qui paraît aux éditions Robert Laffont et qui donc met l'accent sur une médecine de prévention pour renforcer naturellement notre système immunitaire sans recourir systématiquement à la chimie médicamenteuse. Donc ce que vous dites, c'est que les médicaments de synthèse rendent nos organismes paresseux finalement.
Attention, ils sont indispensables. Hein. Je ne suis pas un critique des médicaments de synthèse qui ont sauvé des millions de vies, qui font qu'on vit beaucoup plus vieux qu'avant.
Et vous ne prenez pas l'abstention thérapeutique, hein, on est
absolument
bien d'accord.
Pas. Je voudrais être bien clair là-dessus. Je fais partie de l'agence du médicament. Ça ferait un peu désordre de ma part. Je crois que quand on a une infection grave, quand on a un cancer, quand on a une hypertension, un diabète, c'est clair qu'il faut prendre des choses. Mais c'est clair aussi que si on prend tout de suite, dès qu'on a, pardon pour le mot, un pet de travers, quelque chose, on empêche l'organisme d'acquérir des compétences. Par exemple, si un petit enfant, dès qu'il éternue, on lui donne un antibiotique, son organisme n'a pas le temps d'avoir un contact avec les microbes, donc d'acquérir cette compétence immunitaire et donc de se défendre tout seul.
Donc la compétence, c'est le processus normal de guérison que l'organisme est capable de produire lui-même.
Oui, c'est une phrase que j'aime bien dire, mais on a dans le cerveau une incroyable pharmacie, un laboratoire pharmaceutique inimaginable. On fait des antibiotiques, des anticancéreux, des antialgiques, des antihypertensions. On est capable de faire du shit, on est capable de faire de la cocaïne, de l'héroïne,
à
du
moindre
LSD. Faut être très con d'ailleurs pour aller acheter chez des dealers glauques des produits qu'on est capable parfaitement de faire soi-même et qui n'ont pas d'effets secondaires et qui sont parfaitement légaux. On est capable de faire à peu près tout, mais quand on a un processus grave, lésionnel, ça ne suffit pas, on ne peut pas compter dessus. Il faut donner du médicament de synthèse, mais à force de tout le temps corriger, effectivement, l'organisme devient paresseux, ne devient plus compétent. Il attend finalement que le bon pharmacien de synthèse fasse le boulot à sa place.
Alors, sauf que comment est-ce qu'on peut utiliser consciemment cette pharmacie dont vous parlez dans notre cerveau ?
Je pense qu'on peut difficilement l'utiliser consciemment, ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire la valeur ajoutée à un médicament de synthèse qui fait que l'aspirine, elle ne va pas agir en une demi-heure, mais elle va agir en 10 minutes. Ça, on ne peut pas trop compter dessus. On peut espérer, grâce à la conviction du médecin et de son patient, le provoquer. Ce qu'on peut par contre augmenter, c'est les défenses naturelles sur différents domaines. Par exemple, pas trop laver les choses. Je ne dirais pas que le plus sale, c'est ce qui immunise le mieux, mais je ne suis quand même pas loin de le penser. Et puis, dans le domaine des troubles du sommeil, dans le domaine de la dépression, il y a énormément de manières de se rendre moins vulnérable à ces phénomènes.
En cas de douleur également, on est capable de fabriquer normalement des substances pour calmer la douleur ?
Bien sûr, les premiers médicaments endogènes, c'est-à-dire naturels, ont été découverts dans le domaine de la douleur, puisque nous savons faire en particulier des endomorphines, ce qu'on appelle les encéphalines. D'ailleurs, chaque fois qu'on se tape contre quelque chose, ou chaque fois qu'on fait un jogging, ou chaque fois qu'on fait l'amour, on fabrique des endorphines qui sont des anticrampes, des antalgiques et qui sont aussi des hormones du plaisir. Mais quand on fait un jogging, on fabrique aussi du hashish en assez grande quantité.
Donc si je vous comprends bien, notre organisme serait capable de guérir par lui-même beaucoup de maladies, ou presque, hein, pas, en tout cas pas toutes évidemment.
Bah, si on n'était pas capable de ça, l'humanité n'existerait plus depuis longtemps, puisque au fond, on a tous, par exemple, une bonne dizaine de cancers par jour. Hein. On a tous une bonne dizaine de cellules qui pètent les plombs, qui mutent et qui deviendraient des cancers si on n'avait pas des lymphocytes killers, des interférons naturels qui vont régler leur compte à ces micro-cancers. Donc, et puis, on a tous un contact régulier avec des microbes. Si on n'avait pas tous ces associés, qui sont des microbes gentils, mais aussi les défenses immunitaires, on serait mort aussi depuis longtemps. Donc, ces médicaments endogènes sont nécessaires à la survie. Arrêtons de faire tout le boulot à leur place.
Aurélie, qui nous écoute à Alès, en tant qu'infirmière, étudiante infirmière, dit-elle, il me semble que la plupart des patients n'écoutent pas, ne connaissent pas leur corps, ne serait-ce pas une des bases de leurs soucis de santé et de leur surmédication?
Certes, se connaître est quelque chose d'indispensable si on veut justement avoir une attitude un peu écologique vis-à-vis du soin. Je crois que le sommeil, c'est par exemple le meilleur moyen de se connaître, s'étudier quand on est par exemple en vacances, sans stress, sans contrainte horaire professionnelle, et voir à quelle heure spontanément on va s'endormir, spontanément on va se réveiller. Est-ce que je suis tout de suite bien dès que j'ouvre les yeux ou est-ce qu'il me faut une heure ou deux heures avant lesquels je suis glauque? Est-ce que j'ai besoin de 4 heures? Est-ce que j'ai besoin de 10 heures? Est-ce que j'ai besoin de 7 heures? Tout ça, on doit le savoir. On doit savoir à quel moment on est plus anxieux dans la journée, parce qu'il y a des horaires de l'anxiété. Tout ça, on devrait quand même apprendre.
Donc ça, c'est l'observation.
Hein, oui, ce que les Chinois appellent, je ne peux pas le dire en chinois, mais l'autoscopie, l'auto-observation, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas culturellement en Europe et aux États-Unis, qu'on devrait apprendre un petit peu mieux, sans verser dans l'hypocondrie, évidemment.
Rico, qui nous écoute à Paris, nous dit ceci. Vous affirmez donc que notre corps peut tout guérir. Cependant, face à notre mauvaise habitude d'avoir recours à des médicaments pour le moindre mal, une période de sevrage n'est-elle pas indispensable? Et si oui, comment faire?
Alors, je crois que les deux tiers, ou disons la moitié de ce livre que je propose, c'est un guide du sevrage des médicaments inutiles. Donc, y a des médicaments faciles à sevrer, d'autres pas, d'autres extrêmement compliqués. Et je crois que ce guide du sevrage doit être pris avec précaution, mais en effet, il y a des règles.
Alors, comment on peut s'y prendre sans danger, évidemment, pour une personne?
On sait qu'arrêter d'un seul coup, par exemple, un tranquillisant, peut entraîner des crises d'épilepsie, peut entraîner des délires, peut entraîner des hallucinations, que ça peut être extrêmement dangereux. Arrêter un neuroleptique, si on n'en a plus besoin, ça pose aucun problème. On peut l'arrêter sèchement, il n'y a pas de souci. Mais si on a une psychose sous-jacente, ça peut être très grave parce que la maladie se révèle. Mais pour en revenir au plus fréquent, hein, qui est le bon vieux Valium, le Temestal, le Cérestal, le Xanax et j'en passe, là, la règle, c'est de faire une réduction extrêmement lente, par exemple, un quart de comprimé en moins toutes les 3 semaines. Et surtout de ne pas aller plus vite, même si ça va super bien. Je parle des cas où on en prend depuis longtemps et où on est complètement accro. Quand on en prend depuis une semaine, c'est très facile de l'arrêter.
Donc on peut essayer de prendre des vacances thérapeutiques, hein, pour parler du sevrage. Est-ce que de préférence, quand même, il doit être encadré par le médecin qui prescrit au départ ces médicaments?
Je pense que c'est mieux que le médecin soit conscient, soit encadré, soit consulté, parce qu'il peut avoir de bonnes raisons pour le continuer. Je disais qu'il y a quelqu'un qui prend un neuroleptique parce qu'il a une psychose. Le médecin doit pouvoir expliquer pourquoi il le donne et pourquoi il veut le donner pour toute la vie. Et là, il a raison. Dans certains cas, par exemple, de troubles paniques, l'antidépresseur ne peut jamais être arrêté sous peine de rechute phénoménale dans les 6 mois. En revanche, en cas d'anxiété généralisée, d'insomnie, il faut arrêter au bout de quelques semaines le traitement. Et même le médecin devrait dire d'emblée, je vous le donne pour 15 jours, je vous le donne pour 8 jours, je vous le donne pour 1 mois. Parce que là, ça facilite beaucoup les choses d'anticiper. Oui. L'encadrement est nécessaire. Ça peut se jouer à la québécoise, où les pharmaciens...
C'est-à-dire...
Les pharmaciens québécois, ils ont une salle spéciale pour sevrer les psychotropes, les médicaments pour les nerfs. Et ils voient toutes les semaines les patients pour leur donner des conseils de posologie.
Donc il y a un vrai suivi là, qui est fait.
Voilà, et tous les mois ou tous les 2 mois, le médecin, en accord avec le pharmacien, fait une supervision de ce boulot entre le pharmacien et le patient. Et ça, je trouve, c'est extrêmement intéressant.
Alors, dans cette idée donc, de réduire les médicaments pour renforcer le système immunitaire, est-ce qu'il y a des catégories de médicaments qui sont particulièrement nuisibles ou voire inutiles à l'organisme?
Tous les médicaments sont utiles, sinon je pense que le ministère n'aurait pas permis qu'ils soient sur le marché. En revanche, on voit que certains, je vais rester gentil, n'ont pas prouvé leur efficacité. Et puis le souci aussi, c'est que souvent ils sont utilisés dans une autre indication. Par exemple, Mathieu, si vous êtes en mer et que vous n'avez pas mangé de vitamine C depuis un moment et que vous avez le scorbut, c'est clair que la vitamine C, c'est très utile, ça va vous sauver la vie.
Il faut prendre des citrons avec soi. Hein.
Voilà. En revanche, si c'est pour être plus en forme avant votre émission, si c'est pour rester éveillé, si c'est pour soigner votre grippe, clairement, c'est un placebo. Mm-hmm. Donc ça, c'est complètement inutile. Il vaut mieux, en effet, de prendre un jus de citron que de prendre de la vitamine C de synthèse. Donc il y a des médicaments qu'on appelle de confort qui sont très souvent complètement inutiles, qui vaut mieux rayer de ces listes, qui sont d'ailleurs une bonne exception culturelle française. Mmh. En revanche, il y a des médicaments qui sont utiles un certain temps, je pense aux somnifères par exemple, mais qu'il faut savoir arrêter, et si on ne les arrête pas, ben là ils sont nuisibles.
Ouais, et d'ailleurs on va en reparler tout à l'heure, puisque systématiquement, ou en tout cas très souvent, les somnifères sont employés sur des périodes extrêmement longues, ça devient une habitude chez souvent les patients qui les utilisent.
Contrairement à la réglementation qui les impose pour 4 semaines normalement.
Ouais. Alors le médicament placebo, vous en prescrivez à vos patients en leur disant concrètement, voilà je vous donne un placebo?
Oui, je ne mens jamais de toute manière.
Et ça fonctionne hein.
Mais... comment dire, tout dépend, enfin on doit présenter les choses de la manière qui soit intelligible par chacun, en fonction de son niveau de culture.
Comment vous procédez pour...
Par exemple, si vous avez des petits spasmes des paupières et que vous avez des crampes, puis que vous sursautez et que vous vous sentez un peu anxieux, je vais vous donner du magnésium. Pas du magnébécis, hein, mais du magnésium.
Et c'est du placebo le magnésium ?
Le magnésium, dans cette indication-là, c'est probablement du placebo. Alors qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire, je vous prescris ce qu'il y a de mieux pour vous. Dans un premier temps. Et c'est strictement vrai, je ne mens pas. Pourquoi ? Parce que ça fait aussi bien que les médicaments classiques, mais ça a moins d'effets secondaires. Donc effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ce que j'ai observé aussi, c'est que quand j'ai sorti mon bouquin, qui était sur le placebo, il y a 12 ans, beaucoup de patients l'avaient lu, et quand je leur donnais les magazines, ils me disaient « Mais enfin, docteur, c'est pas du placebo ?» Ben, je disais « Si ». Ça marchait tout aussi bien.
Mais là, vous expliquez justement, hein, il y a une rencontre avec une patiente et vous lui dites clairement, voilà, je vous donne vos pilules classiques et puis à côté des pilules placebo. Donc, il y a un mélange qui est fait, c'est ça ?
Alors là, c'est un petit peu différent. C'est le patient qui se leurre lui-même. C'est-à-dire que quand j'en suis à un moment où le patient n'a plus qu'un quart de comprimé de tranquillisant de somnifère et qu'il n'arrive pas à arrêter ce fichu dernier petit quart parce qu'il n'arrive plus à dormir... Même s'ils pensent l'avoir pris, qu'ils n'en dorment pas et qu'ils le retrouvent sous sa table de nuit. Vous voyez, docteur, ce n'est pas du placebo. En fait, en général, à ces doses-là, c'est quand même un placebo. C'est le geste qui manque. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prescris 30 gélules vides que le patient va chercher chez son pharmacien. C'est une préparation magistrale. Les 30 gélules sont remplies avec du sucre en poudre. Et puis, dans 20 gélules, le patient va mettre son petit quart de comprimé. Et puis, dans les 10 autres, il n'y aura que du sucre. Le sucre, c'est juste pour que ça fasse pas gling-gling.
Donc, en toute connaissance de cause.
Donc, il va tout mélanger. Tous les soirs, il va avaler sa gélule. Et puis, il aura une chance sur trois d'avoir du placebo et 2 chances sur 3 d'avoir son médicament. Puis, le mois d'après, il fera 15-15, puis 10-20. Et comme ça, il va se prescrire, mais en aveugle, de manière aléatoire, son placebo. Mmh. Et il n'aura aucune difficulté.
Patrick Lemoine, beaucoup de questions sur l'homéopathie. Claudine, d'abord, aimerait savoir quelle place occupe l'homéopathie dans votre pratique médicale, Patrick Lemoine. Et puis Cathy nous dit ceci, la médecine écolo, je la pratique, sur mes enfants notamment, avec l'homéopathie. Et elle nous dit, au lieu de désintoxiquer, je préfère prévenir.
Oui, elle a bien raison. Alors la question de l'homéopathie...
Alors placebo ou pas pour vous ?
Alors, je pense, je suis beaucoup intervenu d'ailleurs, vous savez que je suis lyonnais et que Christian Boiron est un lyonnais, donc on se connaît assez bien. Pour moi, les homéopathes ont le mieux compris de tous les médecins occidentaux ce qui fonde l'effet placebo. En ce sens qu'ils restent plus longtemps avec leurs patients, ils prennent un peu plus cher, ils ont une très forte conviction et surtout ils ont une approche humaniste.
Et ça participe à la guérison du patient ?
Bien sûr.
Incontestablement.
Donc, ils font un examen complet de leurs patients, c'est des bons cliniciens et en plus ils prescrivent des trucs avec une présentation très spécifique, des noms extraordinaires, un chiffre et des lettres kabbalistiques. Bref, ils sont dans le meilleur cas de figure pour optimiser l'effet placebo. Clairement, on ne peut pas dire que l'homéopathie a un effet pharmacologique au sens scientifique du terme. C'est-à-dire qu'aucune étude qui compare l'homéopathie au placebo n'est jamais sortie positivement dans aucune grande revue. En revanche, l'homéopathie réussit là où la médecine ne marche pas. Et pourquoi il faut promouvoir l'homéopathie ? Pour une raison simple. Imaginons que vous ayez mal au ventre. Si vous allez voir un homéopathe, il vous examine. Si vous avez malheureusement une tumeur, il vous envoie chez le cancérologue. Si vous avez une appendicite, il vous envoie au chirurgien. Si c'est une colopathie, il va vous traiter. Il fera mieux qu'un médecin occidental. Si vous allez voir un guérisseur, il ne va pas vous examiner. Il va vous faire ses passes magnétiques. Et si vous avez malheureusement un cancer ou une appendicite, eh bien, vous allez y rester. Donc la médecine ne doit pas abandonner le terrain de l'effet placebo et de la médecine naturelle, parce que sinon les gens sont jetés dans la magie et c'est très dangereux.
Patrick Lemoine, vous restez avec nous. D'autres messages arrivent sur le site de La Tête au Carré, franceinter.com. On se retrouve après Bouika et la Falsa Moneda. Patrick Lemoine est notre invité, vous êtes psychiatre, spécialiste des troubles du sommeil et de la dépression. On parle de désintoxiquer avec vous l'organisme pour renforcer le système immunitaire. Et puis vous parlez donc de cette médecine écolo, mais c'est également une médecine écolo pour véritablement préserver l'environnement, puisqu'on sait très bien qu'il y a une pollution médicamenteuse qui est assez préoccupante.
Moi, ça me fait très peur, cette étude qui montre que dans nos mares européennes, les grenouilles qui naissent ne sont plus que des femelles. Parce que, semble-t-il, et ça paraît assez bien démontré, il y a tellement dans l'environnement d'hormones à cause de la pilule, à cause des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, que nos mares sont des bouillons d'hormones féminines et il n'y a plus de crapauds et de grenouilles garçons, ce qui est un peu gênant. Et puis, je ne parlerai pas du spermatozoïde humain occidental qui semble être une espèce en voie de disparition.
Oh, on a le temps encore un petit peu, mais c'est vrai qu'en tout cas, la fertilité baisse énormément par rapport à nos grands-parents en particulier. Alors, beaucoup de témoignages. Thierry, qui est à Gaillac, nous dit ceci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des défauts majeurs de la médecine occidentale est de se préoccuper avant tout et quasi exclusivement des effets sur les maladies et de ne pas s'intéresser aux causes profondes de bon nombre de pathologies qui, bien souvent, prennent naissance dans l'histoire intime et les difficultés, notamment psychiques, de chaque individu. Pourquoi ce déficit en termes d'approche humaniste du patient ?
Je pense que la raison principale, il n'a pas tort cet auditeur, je pense que la raison principale c'est le succès de la médecine. Parce qu'il faut reconnaître que la médecine a eu des trucs tellement extraordinaires de guérir la plupart des infections, de guérir quand même maintenant un grand nombre de cancers. On permet aux gens diabétiques de vivre aussi vieux, les hypertendus. Donc c'est le succès de ces traitements spécifiques qui font que l'homme, depuis que la médecine est efficace, c'est-à-dire depuis en gros les années 50, quoi, 1950, eh bien l'homme n'est plus qu'une addition d'organes, une addition de pathologies. Alors qu'avant, la médecine était complètement humaniste, complètement globale. Alors je ne suis pas en train de dire que la médecine humaniste est inefficace, mais je suis en train de dire qu'un médicament spécifiquement inefficace va rendre le médecin paresseux, forcément. Je crois que les mécanismes en médecine sont exactement comme en agriculture. À partir du moment où, dans un champ, si vous répandez des insecticides et des herbicides pour avoir juste le bon blé, pas un coquelicot et pas un hanneton, à ce moment-là, bah pourquoi vous allez vous ennuyer la vie à biner, à arracher les mauvaises herbes ou à détruire à la main les pucerons, ce que je fais dans mon jardin. Par contre, on se rend compte que la médecine doit faire la même révolution que les agriculteurs bio, à savoir que y a une limite à tout. On doit garder peut-être pour les grandes épidémies un certain nombre de traitements efficaces, mais on doit, je le dis une fois de plus, faire confiance à notre organisme.
Mickey est dans l'Eure-et-Loire, il souffre de spasmophilie et après une crise plus forte que les autres, il est allé voir son médecin généraliste qui n'a rien trouvé de mieux que de lui prescrire un antidépresseur. Je suis atterré, dit-il, par cette attitude très fréquente en France.
Alors, il n'a pas tout à fait raison, mais il n'a pas tout à fait tort. Il est clair que la spasmophilie, qu'on appelle maintenant trouble panique, puisque en fait, ces crises qu'on appelait autrefois tétanie, sont des attaques de panique, c'est-à-dire des crises d'angoisse aiguës, répondent en effet bien au traitement antidépresseur qui agit sur la sérotonine. Mais c'est vrai qu'on peut commencer par ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales qui ont d'excellents résultats. Et là, la méditation a également d'excellents résultats, la relaxation aussi, le contrôle de la respiration. Donc il y aurait vraiment toutes ces approches à faire. Le bon vieux magnésium des familles dont je parlais tout à l'heure a aussi une très bonne efficacité, les plantes aussi. Donc je pense qu'en effet, ces antidépresseurs sérotoninergiques peuvent être donnés, mais si on a essayé beaucoup d'autres choses auparavant.
Est-ce qu'il y a des études scientifiques sérieuses justement sur la phytothérapie, sur le bienfait des plantes, avec les alternatives possibles, puisque c'est ce que vous proposez aussi par moment. Vous citez le millepertuis, puisqu'on évoque les antidépresseurs. Il y a des études là-dessus, justement, sur
les plantes, il y a des millions de gens qui sont vivants grâce à la digitale et grâce à beaucoup d'autres plantes. Donc, beaucoup de médicaments, de synthèses sont issus des plantes. Et puis demander à Socrate ce qu'il pense de la ciguë, je vous assure, c'est un traitement efficace.
On ne pourra plus le demander maintenant, c'est trop
tard. Il n'y a pas de récidive. Par contre, en effet, en matière de dépression, on est devant un paradoxe qui part d'un adage totalement faux qui est « qui peut le plus, peut le moins ». Donc les agences gouvernementales, pour donner une autorisation de mise sur le marché, disent la dépression, si ça marche sur les très grosses dépressions, ça marchera forcément sur les petites dépressions. Et ça, c'est archi faux. Donc il est clair que les médicaments antidépresseurs dans les grandes dépressions qu'on appelle mélancolie, sévère, mortelle, parfois délirante, il faut en donner, ça marche. Il n'y a que deux traitements qui marchent, c'est les antidépresseurs et l'électrochoc, qui est un traitement écologique selon moi, même si je fais hurler beaucoup de monde en ce moment. Mais par ailleurs, comme ce n'est pas un marché, la dépression très sévère, il y en a très peu en fait, on n'en voit pas souvent. Eh bien, il y a forcément une pression et les agences gouvernementales ont fait cette erreur avec ce qui peut le plus, peut le moins. Et ben, le Prozac, avec un petit peu, puisque c'est devenu un nom commun, est maintenant prescrit pour autre chose que ce pour quoi il a été étudié. Clairement, le millepertuis est une thérapeutique qui fait plutôt mieux que les antidépresseurs conventionnels. Pourquoi ? Parce qu'il marche aussi bien et il a moins d'effets secondaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'effets secondaires. Il peut être très dangereux, surtout en été.
La détox et la santé. Donc effectivement, vous revenez sur les bons rythmes. Ça, c'est important avec notre horloge interne, puisque c'est d'abord la base de tout pour pouvoir être capable d'avoir un bon système immunitaire. Alors, d'abord, ce courriel de Muriel. Elle est metteur en scène, comédienne et insomniaque depuis toujours, me semble-t-il, dit-elle. Sans avoir jamais avalé la moindre pilule, je prends cette tranche de vie nocturne comme une chance, calme et espace à moi seul offert, pendant lesquels j'écris, je pense et je refais le monde. C'est ma façon de rompre la chaîne de l'angoisse de ces nuits sans sommeil.
Se trompe,
c'est
Muriel.
C'est pas ce que disent tous les insomniaques.
Mais hein. Non, mais elle se trompe, Muriel, parce qu'elle n'est pas insomniaque. Elle a ce qu'on appelle une chose très répandue parmi les gens du spectacle, du showbiz. Elle a ce qu'on appelle un retard de phase. C'est-à-dire qu'elle est non seulement du soir, mais de manière extrêmement importante. Ce sont des personnes qui, souvent, ne peuvent se coucher qu'à 4h du matin, 5h du matin. Et plus le temps passe, plus elles sont en retard de phase. Donc, de deux cas de figure, soit on choisit le bon métier. Bon, soit on s'appelle Johnny, soit on s'appelle n'importe quel chanteur et on choisit le bon métier. Et du coup, bah, on va parfaitement bien puisqu'on a un métier adapté à ce trait de caractère qui est le retard de phase.
Vous dites que c'est impossible de normaliser la durée de sommeil, par exemple.
Il ne faut surtout pas. Si je suis programmé pour dormir 4 heures et que je vois un médecin qui me donne une pilule qui va me faire dormir 7 heures, là, je suis sûr de devenir malade et insomniaque. Si Muriel voulait prendre un médicament pour dormir aux heures conventionnelles, elle est sûre de tomber malade. Le problème, c'est si Muriel n'avait pas fait le bon choix et si elle était devenue fonctionnaire, eh bien, s'il fallait qu'elle soit opératoire à 8 heures, elle aurait beaucoup de mal et elle serait probablement obligée de recourir à la chimie ou de faire des synchronisations extrêmement difficiles qui ne marchent jamais très bien. Donc, le truc, elle l'a parfaitement démontré, c'est de choisir le bon métier en fonction de ce qu'on est. Si on est du soir, voire en retard de phase, on peut faire un travail de garde, on peut faire les 3-8, on peut être hôtesse de l'air, pas de souci. Si comme moi, on est dramatiquement du matin, puisque si je me lève, si je fais une grasse matinée et que je me lève par exemple à 6 heures, ben, je suis mal toute la journée. Et là, moi, je ne pourrais pas faire l'hôtesse de l'air pour un tas de raisons, mais notamment parce que je suis du matin.
Patrick Lemoine, très rapidement, parce que c'est la fin de l'émission en ce qui concerne le dossier, les vitamines, les compléments alimentaires, il y a des questions là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que les vitamines et les compléments alimentaires ne sont pas très raisonnables à prendre pour une raison simple, c'est qu'il faut avoir un déficit pour que ça serve à quelque chose. Et c'est assez rare, les carences alimentaires. Je pense qu'une bonne nourriture équilibrée, comme le dit David Servan-Schreiber dans ses bouquins, manger du poisson des mers froides, ben, ça donne largement de quoi faire en oméga 3, manger du citron donne une vitamine C qui est beaucoup mieux utilisée par l'organisme que celle de synthèse.
Avec des vitamines dangereuses, on en parle
alors,
ici, le bêta-carotène par exemple.
Par exemple, le bêta-carotène, la B6, vous pouvez rendre grabataire un parkinsonien avec la vitamine B6, vous rendez anxieux un tas de gens avec la vitamine B6. Il y a des vitamines qui ne sont pas anodines, et la majorité, sauf carence, est complètement inutile.
La détox, c'est la santé. Pour en savoir plus, vous parlez beaucoup des acides aminés également dans ce livre qui est publié aux éditions Robert Laffont. Merci Patrick Lemoine.
Merci
Mathieu. À bientôt, au revoir.